Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet épisode numéro 15 des lundis de Ruralitique, dédié donc à la jeunesse, notamment rurale, puisque vous connaissez nos obsessions, et dans la perspective de la prochaine édition de Ruralitique, la 16e. Oui, Ruralitique à 16 ans, comme certains de nos jeunes, et qui se tiendra à Aurillac, comme chaque année, les 24, 25 et 26 août. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Jarry, qui est vice-présidente, je vais le dire en bref, au numérique en général, parce qu'il y a les infrastructures, il y a les services, il y a les formations, enfin, l'économie numérique. Donc, voilà. Donc, vous êtes vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en charge de ces questions. Et aujourd'hui, on va parler du campus région du numérique, qui est un projet assez considérable sur lequel on va faire le point ensemble. Je rappelle un point particulier, c'est que donc Juliette Jarry, sa parole est un peu contrainte par ce qu'on appelle le devoir de réserve, ce qui est bien normal puisque nous sommes en période préélectorale. Donc il y a certaines questions auxquelles elle ne pourra peut-être pas répondre, et sa feuille de route, voilà, c'est de nous dire où on en est et ce projet, voilà, comment il fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, vous vexez pas s'il y a des questions auxquelles elle peut pas répondre, c'est qu'elle est contrainte par ça. Je me vexerai pas si elle veut pas répondre à certaines de mes questions. Elle pourra lever la main en disant joker, voilà, et tout le monde le comprendra. Nous savons qu'effectivement c'est une règle légale et c'est une règle qui est finalement pas si mal pensé. Voilà. Donc, Juliette Jarry, bienvenue d'abord. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, ce campus région du numérique, la question, c'est on en est où? Ça se trouve où? Il y a qui dedans? Enfin, on a plein de questions. Alors, j'irai faire un tour en même temps, parfois, que vous nous présenterez les choses sur le site pour permettre à nos amis de s'y rendre, voire de le visiter en visite virtuelle. Voilà, c'est à vous de nous raconter.
Merci Sébastien, bonsoir à tous. Alors, effectivement, le projet de campus, c'est un projet qui s'inscrit dans un contexte. Ce contexte est qu'en très peu de temps, en l'espace de quelques décennies, on est passé du PC de bureau avec des disquettes de quelques octets de stockage quasiment à l'ordinateur quantique. On est passé de l'outil bureautique à un facteur de transformation profonde du monde dans lequel on vit, facteur de transformation qui a des impacts à la fois sur la façon dont on produit, dont on consomme, dont on communique, dont on se déplace aussi, donc sur tous les aspects à la fois de notre vie quotidienne personnelle, mais aussi de notre vie professionnelle. Et donc, le campus, c'est à la fois un lieu et une philosophie qui a vocation à éclairer les enjeux du numérique. Autrement dit, comment est-ce qu'on met le numérique au service des grandes transitions, des transitions économiques, des transitions industrielles, des transitions environnementales. C'est un projet qui est construit dans une logique à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il doit amener des publics qui sont très divers. Ce sont des étudiants, des chercheurs, des industriels, des salariés, des pôles de compétitivité à se rencontrer et à travailler ensemble. C'est un projet qui s'organise autour de trois grandes composantes. La première, c'est la question de la formation aussi bien initiale que continue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on forme les jeunes générations. Et on a des formations qui sont même infra-bac, on a des écoles de production par exemple qui accompagnent des jeunes dès 14 ans, mais aussi de la formation continue pour des salariés qui sont déjà en poste et qui doivent actualiser leurs compétences. Ce sont des formations qui sont extrêmement variées, donc je vous le disais, sur le niveau de diplôme, mais aussi sur la typologie, j'y reviendrai après, et donc qui ont vraiment vocation à s'adresser à un public extrêmement large. Après cette composante de la formation, la deuxième composante, c'est celle de la transformation. Comment est-ce qu'on accompagne les structures, le tissu économique, les entreprises dans leur transformation. Comment est-ce que de la mise en place d'un CRM, donc de la gestion de la relation client, de la gestion des RH, de la gestion du, par exemple de la téléphonie sur IP, donc sur des aspects très opérationnels, mais aussi sur de vrais pivots en termes de modèle économique, on accompagne les entreprises dans leur transformation et dans leur intégration à la fois du numérique en tant qu'outil, mais aussi là, du numérique en tant que facteur de transformation véritablement du modèle économique ou de la façon de fonctionner, de la stratégie de l'entreprise. Donc là, c'est le deuxième pivot, c'est la question de la transformation. Et nous avons donc sur le campus à Charbonnières des structures qui sont en résidence, donc qui sont locataires en permanence du campus, qui sont par exemple des pôles de compétitivité, qui sont le cluster Digital League. Donc dans les pôles de compétitivité aujourd'hui, on a Minalogic et Polymeris, donc le cluster Digital League, mais aussi l'association ENE, qui est une association qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est le volet autour de l'innovation et notamment de l'innovation industrielle, puisqu'on a souhaité, dans ce projet de campus numérique, avoir un focus particulier sur la question de l'industrie du futur. Alors, c'est un choix qu'on a fait en 2017, mais je crois qu'il est ô combien pertinent au regard de la crise sanitaire que nous avons vécue ces derniers temps. C'est comment est-ce qu'on accompagne notre tissu industriel, et vous savez, la région est une grande région industrielle, dans sa transformation. Comment est-ce qu'on accompagne donc ces entreprises industrielles, TPE, PME notamment, à appréhender cette question et à intégrer des briques numériques dans leur appareil de production, soit déjà existant, soit dans un projet à venir autour de cette question-là. Donc sur le campus, on a cette usine de recherche et d'innovation avec des consortiums qui se sont constitués, qui sont à la fois composés d'acteurs académiques, mais aussi d'industriels, d'offreurs de solutions. Et c'est un démonstrateur, en fait, avec de nombreuses technologies qui sont sur le campus. Ça va de l'imprimante 3D polymère, l'imprimante de la fabrication additive métallique. On a un consortium qui s'est constitué autour de l'excellence opérationnelle, par exemple. On en a d'autres qui sont sur les jumeaux numériques, sur la réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc, il y a énormément de technologies qui sont en démonstration. Mais on a aussi, parmi ces consortiums, la volonté d'accompagner des entreprises qui sont sur un niveau de maturité peut-être plus en amont, c'est-à-dire qui se disent qu'il y a un enjeu sans forcément avoir un projet encore très, très clair, donc qui ont besoin d'être accompagnés très en amont sur leur projet, jusqu'à des entreprises qui sont pointues et qui recherchent une solution d'excellence en matière, par exemple, de 5G industrielle. On a, par exemple, un des premiers laboratoires de 5G industrielle installé par Orange sur le campus et qui se sert des différents équipements de ces consortiums comme bac à sable pour tester un certain nombre d'innovations, notamment en matière de télémédecine, par exemple, qui est un des futurs projets qui va voir le jour sur le campus. Donc, c'est vraiment cette logique d'appréhender le numérique comme ce facteur de transformation du monde en disant on doit accompagner notre tissu économique, on doit l'accompagner sur le volet technologique, mais on doit aussi l'accompagner sur tous les aspects de ressources humaines, sur tous les aspects d'organisation, sur tous ces facteurs-là qui font que la transformation numérique, ça n'est pas une transformation au singulier, vraiment des transformations au pluriel parce qu'elle vient impacter énormément d'aspects de la vie de l'entreprise et de manière générale de notre vie de tous les jours. Donc voilà comment on a voulu penser ce projet avec un certain nombre de sujets qui étaient extrêmement aussi importants pour nous, puisque je vous parlais tout à l'heure de cette question des usages éclairés autour du numérique. On a voulu que le campus soit un lieu aussi où on pense la question de la mixité, la question de l'appréhension par les jeunes générations de toutes ces questions. Donc, par exemple, on aura sur cet été sur le campus des ateliers à destination des 6-15 pour qu'ils commencent à appréhender les questions de robotique, les questions de code, avec ou sans écran d'ailleurs. Donc vraiment cette volonté, quand je disais, d'appréhender les grandes transitions et d'intégrer aussi cette question des usages éclairés de ce numérique. Voilà.
Donc, que je comprenne bien, Madame la vice-présidente, on a au sein de ce campus le monde académique, le monde également de ce qu'on appelle le transfert de technologie, notamment les pôles de compétitivité. On a les entreprises qui, entre guillemets, prennent des chairs, enfin, vous m'arrêterez si je me trompe, et on a des espaces qui sont ouverts au public, à la société civile, notamment aux jeunes, pour s'approprier, découvrir. On est sur cette logique de campus ouvert un peu, je dirais même presque plus qu'à l'américaine d'ailleurs.
Exactement, l'objectif du campus, c'est d'être un lieu très ouvert à la fois aux entreprises qui ont besoin de venir tester un certain nombre de choses, de venir tester des équipements, de venir rencontrer des enseignants-chercheurs, parce qu'effectivement, dans les partenaires académiques, on a des enseignants-chercheurs qui sont présents sur le campus, mais il a aussi vocation à accueillir, par exemple, des personnes en recherche d'emploi. Ça fait partie des échanges qu'on a eus avec Pôle emploi, puisque les équipes sont venues visiter cette usine de recherche et d'innovation en se disant, mais finalement, ça peut être un lieu de formation en situation pour des personnes qui veulent s'orienter, se réorienter ou découvrir les métiers de l'industrie. C'est aussi une façon pour des plus jeunes de se rendre compte que l'industrie, ce n'est pas forcément germinal, c'est-à-dire que ce n'est pas sale, ce n'est pas bruyant, qu'on peut avoir une industrie dans des locaux tertiaires et qu'on peut voir l'industrie, qu'on peut voir les métiers de l'industrie, et ce, notamment en lien avec le numérique, d'une façon complètement différente, peut-être des représentations qu'ont certains jeunes et même parfois certains prescripteurs ou certaines personnes en charge de l'orientation. Donc l'objectif, c'est aussi de casser un peu les codes à la fois sur le numérique et sur les métiers de l'industrie.
Est-ce qu'il est prévu de l'ouvrir? J'imagine que c'est le cas, mais justement d'avoir des sessions destinées aux élus locaux, aux maires, pour qu'ils prennent possession de l'outil, qu'ils puissent, voilà, en fonction des talents qu'ils ont sur leur territoire, se dire, bon, bah, toi, mon petit gars, il faut absolument que tu ailles faire un tour là-bas, quoi.
Bien sûr, l'objectif, c'est dès que ce sera possible d'avoir le plus de monde possible sur le campus. C'est un lieu qui doit fourmiller, je disais tout à l'heure, de personnes très très diverses, avec des profils très divers. Évidemment, les élus sont les bienvenus, on organise des délégations, les équipes du campus sont à disposition pour organiser des délégations, en bon anglais, des learning expeditions, ou des visites de découverte de ce lieu. C'est vraiment la vocation de cet endroit. Quand on parle de démonstrateur, l'objectif, c'est voilà, de pouvoir venir tester, de pouvoir se frotter à toutes ces technologies, de poser le plus de questions possibles pour après pouvoir faire découvrir aussi sur les territoires le campus.
Je voudrais effectivement montrer à nos amis, il y a une partie qui me semble particulièrement intéressante, c'est qui habite là-dedans en fait, les acteurs du campus. Et c'est une espèce de gigantesque convocation, si je puis dire. Et moi, je me souviens c'était en 2017, il me semble, vous aviez accueilli Xavier Niel lors d'un sommet. Et c'était, ça a commencé enfin, en partie par l'installation de 42. Et là, on voit qu'aujourd'hui, je les ai comptés, hein, parce que j'essaie de faire les choses sérieusement, j'en ai compté 94 des acteurs du campus.
Alors, il y a même plus de 120 formations qui sont aujourd'hui labellisées, puisque certaines écoles ont labellisé plusieurs formations. Oui. Mais on a effectivement plus de 120 formations qui sont labellisées campus région, puisque effectivement, le campus, le projet de campus, c'est charbonnière, c'est un bâtiment qui est magnifique sur un espace de 11 hectares de verdure. Mais c'est aussi un projet qui, depuis le début, a été travaillé dans sa vocation régionale et dans sa vocation de maillage avec le territoire. Donc, quand on dit qu'on a 120 formations qui sont labellisées, ce sont des formations qui sont réparties partout sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme je le disais tout à l'heure, sur des niveaux de diplômes qui vont de l'infrabac, donc aujourd'hui du bac-3 avec les écoles de production, jusqu'au niveau bac+6, voire bac+8 à terme. Et on va aujourd'hui du soudeur en fibre optique jusqu'au spécialiste de l'intelligence artificielle, en passant par le spécialiste de la cybersécurité, de l'architecture réseau, du code, puisque vous parliez effectivement de l'école 42, qui est une école qui est résidente à Charbonnières et qui forme aujourd'hui 120 codeurs par an. On est à la quatrième promotion. Mais ce sont aussi des rédacteurs de contenu web ou des spécialistes du cycle de vie du produit. Donc, ce sont des formations qui sont extrêmement variées et qui couvrent un champ très, très large à la fois de compétences cœur du numérique, mais aussi de compétences connexes.
Ce qui nous emmène à ma prochaine question. Je mets à l'écran effectivement le campus numérique. Je vous copie, colle le lien dans une seconde sur notre outil de conversation. Donc aujourd'hui, enfin, je crois qu'il y a eu des portes ouvertes virtuelles qui ont été organisées, faute de pouvoir les faire physiquement. On peut visiter le campus en se connectant sur cette adresse.
Oui, exactement. Donc en allant sur campusnumérique.auvergne-rhône-alpes.fr, vous avez la possibilité de faire une visite virtuelle du campus, de découvrir tous les espaces, de vous promener un petit peu comme si vous y étiez, et d'aller à la fois les salles de cours, d'aller découvrir les bureaux des pôles de compétitivité des clusters, l'usine aussi, puis un certain nombre de vidéos, un certain nombre, on va dire, d'outils interactifs qui permettent de faire une première découverte de ce lieu.
Super. Vous avez commencé à le dire, ça n'est pas qu'à Charbonnières, parce qu'effectivement, la région est grande. Alors, voilà, dans la Drôme, dans le Cantal, alors, on a nos amis de la Drôme qui sont là, on a nos amis du Forez qui sont là. Voilà, pour eux, qu'est-ce qui est prévu, et notamment pour nos jeunes ruraux, hein, quel est le bénéfice pour eux de la création de cet outil?
En fait, depuis le début, le projet du campus a été pensé comme un projet territorial, comme un projet régional, avec effectivement un navire amiral, parce que c'est ce qui permet de lui donner sa visibilité quand on en parle. Mais depuis le début, il y a eu un travail fait par les équipes pour mailler l'ensemble du territoire avec des initiatives, que ce soit les formations, comme je le disais tout à l'heure, avec ces plus de 120 formations qui sont labellisées, mais aussi avec des plateformes technologiques, avec des Fab Labs, par exemple. L'équipe a fait un gros travail de recensement et d'état des lieux des Fab Labs qui existaient en région. On en a plus de 60 qui sont partenaires du réseau de campus. Et c'est très important parce que ce sont des tiers-lieux qui permettent aussi de découvrir, d'avoir une première approche du numérique à travers des équipements comme de la fabrication additive, on en parlait tout à l'heure, mais aussi un accompagnement autour de cette question-là et en proximité. Effectivement, sur le campus, on y vient facilement quand on est lyonnais, on y vient quand on a un projet très très spécifique, mais l'objectif, ça reste toujours celui de la proximité, c'est-à-dire de pouvoir trouver une première réponse, un premier niveau de réponse en proximité. Et de la même façon que ça a été pensé pour les formations, nous avons des réseaux qui sont hors les murs aussi pour les acteurs de la transformation. Le projet de campus a été beaucoup travaillé avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les chambres des métiers et de l'artisanat, avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ou avec des acteurs que je citais tout à l'heure, les pôles de compétitivité, les clusters ou l'EN. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir apporter des réponses en proximité sur le volet de la formation comme sur le volet de la transformation ou de l'innovation avec ces plateformes de recherche et de développement dont je parlais tout à l'heure.
Alors on va jeter un œil à ce réseau dont le campus de Charbonnières est la tête, voilà, pour que nos amis prennent, voilà, prennent connaissance de ce maillage. Donc aujourd'hui, aidez-nous à lire peut-être cette carte, puisqu'on a formez-vous. Il y a digitaliser votre entreprise, donc formez-vous, on a compris. Digitaliser votre entreprise, on peut imaginer que ce sont des services d'accompagnement des entreprises pour s'emparer du numérique, quelle que soit leur taille, ou innover dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces trois types de services?
Oui, donc on retrouve la cartographie là des trois composantes dont je parlais tout à l'heure, de la formation, de la transformation et de l'innovation. Donc vous allez avoir en rouge le nombre de structures par département qui sont labellisées campus région du numérique. En bleu, vous allez retrouver toutes les structures d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, donc que ce soit les CI, les CMA, donc tous ces partenaires du plan transformation numérique qui ont vocation à être en proximité avec les entreprises et les acteurs économiques pour les accompagner. Et en jaune, on va retrouver donc toutes les structures d'innovation, que ce soit les Fab Labs, que ce soit des plateformes de recherche avec lesquelles le campus a noué des partenariats avec lesquels on travaille quasiment au quotidien.
Et qu'implique le fait pour une structure, qu'elle soit de formation, qu'elle soit d'accompagnement ou d'aide à l'innovation, qu'implique le fait d'être labellisé? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'il y a une forme d'harmonisation régionale de ce que je vais trouver si je veux me faire accompagner sur la digitalisation? Est-ce que ça va être à peu près semblable à Montélimar qu'à Moulins?
Alors l'objectif, effectivement, c'était d'avoir un cahier des charges. Donc notamment pour les formations, elles signent ce cahier des charges qui les engage. Notre souhait, c'était de dire, si vous voulez être labellisé campus, vous devez être dans une démarche, d'une part, de forte connexion avec l'écosystème local. D'autre part, vous devez être dans une logique de prospective, c'est-à-dire dans une capacité à revoir votre plaquette pédagogique très régulièrement. C'est-à-dire que quand on est sur des sujets qui traitent du numérique, il faut avoir cette agilité à repenser ses contenus de formation. Donc, on a effectivement tout un cahier des charges qui est signé par les formations, qui est valable pour 3 ans, et au bout de 3 ans est revu par les services pour valider ou non la poursuite de la labellisation. Et de la même manière, donc on a fait un gros travail, et la crise sanitaire a beaucoup aussi accéléré ça. Gros travail sur des webinaires, gros travail sur un certain nombre de contenus qui ont été développés avec les chambres de commerce et d'industrie ou la CMA dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir mutualiser un certain nombre d'actions, puisque la difficulté en fait en la matière, c'est la multiplicité des initiatives. L'objectif, c'était de pouvoir donner un peu plus de visibilité à tout ça pour faciliter un petit peu les parcours.
Alors, on a la Seine-et-Marne qui se pose des questions avec Yannick Guyot, que je vais donner la parole avant la phase des questions-réponses, parce que voilà, on est entre nous. Donc, tout va bien, et alors qu'Éric Creusel de la Meuse nous rejoint également.
Donc, Madame a répondu pratiquement à une partie de ma question sur la fin. Et je voulais savoir quelle était justement la contractualisation que vous avez, par exemple, avec les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, chambre d'agriculture, d'artisanat. Je suppose que vous avez tissé un partenariat avec eux en amont, je pense, quand même.
Oui, tout à fait. En 2018, on a lancé un plan transformation numérique avec des conventions qui ont été signées avec ces différents organismes. On a des réunions très très régulièrement, au minimum une fois par trimestre, justement sur un certain nombre d'indicateurs, d'objectifs, avec un suivi du nombre d'actions. L'objectif, ce n'est pas de signer une convention pour le plaisir de signer une convention, c'était vraiment de pouvoir accélérer. Et la nécessité faisant loi, la crise sanitaire a été de ce point de vue-là. C'est un peu frustrant d'ailleurs, hein, que ce soit une crise qui soit, qui
Qui
nous
fasse
aide.
en 3 ans ce qu'on aurait fait en 10.
Oui, voilà, exactement. Ou qu'il fasse en 6 mois ce qu'on a fait en 4 ou 5. Mais effectivement, il y a eu une convention qui a été signée avec ces différents organismes, avec l'objectif de vraiment unir nos forces pour pouvoir mutualiser des contenus. Donc, par exemple, si vous allez sur le site du campus, vous retrouvez tous les événements, tous les dispositifs, tous les interlocuteurs de ces différentes structures dans une logique justement de visibilité. Donc, vous avez un agenda des événements qui sont organisés par les uns ou les autres. On a mutualisé sur la question des webinaires, voilà, sur un certain nombre de sujets aussi. On essaye au maximum de faire circuler l'information et de bien se coordonner, pour ne pas noyer les entreprises sous de la redondance, mais pour que ce soit le plus cohérent possible.
Justement, donc c'était la première partie de ma question. De quelle façon, finalement, vous avez une forme on va dire, de prospective du territoire pour justement déterminer les besoins? Je cite souvent, bah, je fais exprès de faire de la provocation, mais c'est vrai que je veux dire, si le centre de formation pour adultes du coin fait de la formation pour des menuisiers, alors qu'en fait, il n'y a pas de filière bois dans le département, ça ne sert à rien. Et on est souvent devant ce type de problème. Moi, je vois par exemple ici, on a une carence parce qu'il y a une demande industrielle où il faut des chaudronniers, il n'y a pas de chaudronniers. Voilà. Et en gros, c'est ça, c'est finalement comment est-ce que vous arrivez à influer d'une certaine façon, quitte à s'adapter de façon, parce que je suppose a priori, si j'ai bien compris, je suis désolé, j'ai pris en cours de route, mais que l'expérience se reporte sur plusieurs années, est-ce que vous avez une possibilité d'évolution qui vous permet de dire, par exemple, bon ben voilà, on a réussi dans tel domaine, on nous fait noter que maintenant il y a une petite carence sur tel secteur ou ce genre de choses. Est-ce que pour l'année prochaine, pour le prochain cursus, est-ce qu'on peut peut-être obliquer un petit peu de façon à faire, comme disait Jean-Paul Sartre, de la praxis?
Alors, effectivement, il y a eu, avec, que ce soit avec Pôle emploi, que ce soit avec les branches, que ce soit avec le cluster, la volonté de pouvoir faire un état des lieux des besoins des entreprises sur le territoire et des structures économiques au sens large du terme, pour pouvoir adapter en fait, le système de formation aux besoins et d'être le plus possible dans l'articulation entre les besoins du territoire et les sorties de formation. On a par exemple sur le territoire le MEDEF qui a créé un CFA pour répondre justement à des besoins qui avaient été identifiés. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire cet état des lieux des manques qu'on avait, et notamment ça a été une des raisons de la création de l'école 42, qui est donc la petite sœur de 42 Paris, et qui a été donc créée sur le territoire avec, donc avec le soutien de la région, mais surtout à l'impulsion à la fois de l'ENE, de Digital League et de Minalogic, donc le pôle de compétitivité, cluster et l'ENE dont je parlais tout à l'heure. Donc là, qui sont les trois administrateurs de cette école. L'objectif pour nous, c'était aussi, par exemple, sur le cluster Digital League, de leur confier cette mission d'animation du réseau des formations labellisées, parce que, comme sur tous les territoires français, la remarque qui remontait le plus souvent, c'était de dire, en tout cas pour les entreprises du numérique, on a un carnet de commandes, mais on n'arrive pas à trouver des personnes formées. Donc, il y a un moment donné où bon, ça peut continuer longtemps. L'idée, c'est de dire, bah, mettez-vous en lien avec les formations, soyez des acteurs aussi dans cet écosystème pour faire remonter de manière précise les besoins. Et après, voilà, on se met tous autour de la table, le réseau des formations du campus, vous avec vos besoins en termes de recrutement, et on essaie de trouver des solutions extrêmement concrètes et pragmatiques, à la fois en termes quantitatifs, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes à former, mais aussi dans cette logique dont je parlais tout à l'heure de prospective, c'est-à-dire que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins de demain, et on sait très bien que pour former quelqu'un, ça prend du temps. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut anticiper sur les sujets dont on va avoir besoin demain. Je pense notamment aux questions d'intelligence artificielle, de 5G, enfin, sur tous ces enjeux-là, où on a besoin d'être dans cette anticipation pour que l'appareil de production, de formation, pardon, soit le plus rapidement possible en connexion, en articulation avec ces besoins-là.
D'accord, et la dernière question sénémarnaise, et la question qui blesse à chaque fois, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du moyen budgétaire que vous avez pour mener cette action par année?
Alors, par année, non, mais au total, le projet Campus, depuis sa création, c'est un peu plus de 50 millions d'euros qui ont été investis, donc à la fois sur la réhabilitation des bâtiments de charbonnières. Bon, là, on est autour de 28-30 millions d'euros. Sur l'usine de recherche et d'innovation dont je parlais tout à l'heure.
Uniquement sur le financement régional ?
Là, je parle uniquement du financement régional. Voilà. Sur le financement de l'usine de recherche et d'innovation, la région a lancé un appel à projet qui était doté de 9 millions d'euros pour amorcer les équipements industriels qui ont été installés, avec la condition que les privés mettent à minima autant d'argent de leur poche que la région en mettait, et avec la condition aussi qu'ils trouvent un modèle économique pour pérenniser cette usine de recherche et d'innovation. Donc, de manière consolidée, on est autour de 50 millions d'euros pour le projet. Depuis 2017, hein, puisque le campus s'est installé à Charbonnières le 4 janvier 2021, mais on avait un lieu de préfiguration depuis 2017.
Merci Yannick. Je reprécise, puisque effectivement, comme tu as pris un petit peu en cours, tu parlais de chaudronnier et de menuisier. Je rappelle qu'effectivement, le campus région du numérique n'est pas un campus numérique, c'est-à-dire en fait une modalité alternative d'enseignement pour tous les métiers, mais bien un outil dédié aux métiers du numérique, alors à tous les métiers du numérique, on l'a vu avec le nombre de partenaires qui sont impliqués, mais strictement à ces métiers du numérique. Michel Sauvade a dû nous quitter, Marsac en livre à doigt puisqu'il avait une réunion à suivre, mais il nous laisse un petit billet: Ruralitique au campus, point d'exclamation. Alors, ça rejoint effectivement les Learning Expedition pour les élus ruraux, pour effectivement visiter cet outil et voir comment s'en saisir. Donc oui, certainement, je pense qu'effectivement, il faudra peut-être à un moment donné proposer à nos amis élus de venir massivement voir les gens qui sont dans ces formations. Et ce qui nous amène à la troisième, je dirais, troisième partie de cette interview, qui est qui sont-ils, ces gens en formation? Est-ce que ce sont que des ingénieurs Bac plus 5, par des diplômes, et qui sont lyonnais? Et que des garçons, évidemment. Donc, je ne suis pas sûr. Donc, il y a qui peut se former, d'où viennent-ils, et est-ce que nos jeunes ruraux peuvent effectivement aujourd'hui débarquer là-dedans, même si finalement ils sont à l'école de la deuxième chance ou décrochés depuis 2 ans. Voilà, c'est aussi ça, ces métiers du numérique, on nous les présente comme une opportunité majeure, ce que je crois qu'ils sont. Mais parfois, ils ont cette perception d'un univers un peu inaccessible, réservé à des fans d'heavy metal qui codent à longueur de journée. Je sais que ce n'est pas ça, mais quand même.
Alors non, ce ne sont pas que des ingénieurs Bac plus 5, bardés de diplômes. Non, ce ne sont pas que des hommes, bien que sur certaines formations, on se batte beaucoup pour avoir plus de mixité. C'est un vrai enjeu sur ce sujet-là, et pas uniquement un enjeu statistique, mais bien un enjeu sociétal. Non, l'objectif du campus, c'est vraiment de s'adresser au plus grand nombre possible. Alors, quelque part, je vais vous dire, on n'est pas dans Ratatouille, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas cuisiner, tout le monde ne peut pas faire du code ou faire... Je crois que non, le sens du message, il n'est pas là. Il est de dire, par contre, que on doit faire ses choix en connaissance de cause et on doit faire ses choix sans préjugés, sans a priori, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour être codeur, mais par contre, tout le monde doit avoir la possibilité de manière libre de savoir si oui ou non c'est fait pour lui. Je crois que vraiment le message, c'est de dire qu'il ne doit pas y avoir ni d'autocensure, ni de barrière culturelle extérieure en disant bah, c'est que pour les hommes ou c'est que pour les scientifiques. Non, les métiers du numérique sont extrêmement larges, extrêmement variés. Ils peuvent être passionnants pour ceux qui effectivement s'y intéressent. Ils peuvent être accessibles avec des niveaux de qualification et de diplôme, là aussi extrêmement larges. Donc l'idée, c'est de dire que c'est un secteur et une possibilité d'orientation et de carrière qui doit vraiment être à considérer, même si, encore une fois, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais il ne doit pas y avoir cette barrière à l'entrée. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a un travail qui est fait avec... à la fois ceux qui sont prescripteurs en matière d'orientation, à la fois avec les adultes qui sont référents sur cette question, avec les parents aussi, pour pouvoir déconstruire un certain nombre de sujets. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai une conviction qui est profonde, qui est que c'est pour en avoir aussi beaucoup discuté avec que ce soit des chercheurs, que ce soit des personnes comme Sophie Vigier, qui est à la tête de 42 Paris et qui travaille sur cette question, c'est que les rôles modèles dont on parle beaucoup sont importants, mais ils sont insuffisants. C'est-à-dire que les rôles modèles, quelque part, ils préparent le moyen ou le long terme, c'est-à-dire qu'ils préparent les enfants des hommes ou des femmes d'aujourd'hui à considérer le numérique comme une orientation, comme une carrière envisageable ou possible. Mais ce n'est pas forcément ce qui va faire passer un jeune à l'action, ce n'est pas forcément ce qui va l'amener à s'orienter vers les métiers du numérique. Par contre, ce qui, à mon sens, est beaucoup plus utile à court terme, c'est tous les aspects manipulatoires, c'est-à-dire tout ce qui va amener quelqu'un à pratiquer et à se rendre compte qu'il peut, c'est-à-dire faire un peu de code ou faire un peu de robotique ou faire un peu, quel que soit le sujet, à découvrir ce que ça veut dire concrètement et à se rendre compte, qu'il soit un homme ou une femme et quel que soit son niveau de diplôme, que ça peut lui être accessible. Et je crois, je suis vraiment convaincue de cet aspect manipulatoire, pareil chez des enfants aussi, parce qu'on se rend compte que cette autocensure, elle se fait très tôt chez les petites filles, mais que par contre, pour celles qui, à un moment donné, ont fait du scratch, pour celles qui, à un moment donné, ont fait de la robotique, qui se sont rendues compte que, garçon ou fille, peu importe, elles pouvaient le faire, après qu'elles aient envie ou pas, c'est une autre question, mais qu'elles pouvaient le faire. Et ce choix éclairé, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui est extrêmement précieux et vers lequel on doit tendre. Et c'est pour ça que l'objectif du campus, c'est aussi de travailler avec tous ceux qui sont en charge de ces questions d'orientation, quand on est père ou mère, c'est facile d'expliquer à son enfant ce qu'est un boulanger, un avocat, etc. Parce que ce sont des métiers dont on a une représentation facile. C'est beaucoup plus compliqué d'aller expliquer ce que sont ces métiers du numérique parce qu'ils sont récents, parce qu'ils évoluent rapidement, parce qu'on y est peut-être moins confronté au quotidien. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des lieux où on permette cet aspect manipulatoire, où on permette cette découverte des métiers et la découverte aussi de toute la densité de ses carrières et de ses orientations possibles. Et c'est la raison pour laquelle le message, il est très clair. Le numérique peut être une orientation possible pour tous et pour toutes, sous réserve évidemment de compétences, d'intérêts, etc. Mais en tout cas, sans cette barrière, sans cette autocensure, sans cette barrière culturelle qui ferait que certains, avant même d'avoir essayé, s'en sentiraient exclus.
Vous avez pu réaliser à l'occasion de la mise en place du campus une sorte de catalogue, de scope complet des métiers du numérique à date, parce qu'il y a, moi je pense naturellement au campus CCI à Aurillac, où bah, notamment Orange, mais d'autres opérateurs envoient se former leurs équipes, voire forment des primo-accédants aux métiers de la pose, de la fibre optique, de la pose des infrastructures, des tuyaux qui nous ont tant servi pendant cette crise sanitaire et qui ont tenu, qui ont résisté, et dont on comprend que c'est une infrastructure essentielle, et donc sensible, et donc menacée, ce qui m'emmène à une autre structure à Aurillac, qui est l'UT de cybersécurité. Donc, est-ce que vous avez une vision un peu catalogue qui serait accessible finalement en ligne? Alors, vous n'êtes pas nos l'INSEP, hein, mais est-ce que quelque part sur le site du campus région, on peut voir les différents métiers auxquels on ne pense pas forcément?
Oui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement sur le site du campus la liste de toutes les formations qui sont labellisées, triées par catégorie et par secteur d'activité, par niveau de diplôme aussi. Donc là, vous pouvez accéder à la liste de ces plus de 120 formations qui sont labellisées, par territoire aussi. Hein, il peut y avoir cette fonction-là.
Ce prisme-là, oui.
Exactement, parce que c'est un prisme qui est très important. Mais on a aussi sur le site du campus un démonstrateur des métiers pour pouvoir expliquer ce que sont les métiers de l'intelligence artificielle, ce que sont les métiers de la cybersécurité, ce que sont les métiers autour du calcul ou de performance. Donc l'idée, c'était aussi de donner à voir avec des témoignages, avec des choses extrêmement concrètes de personnes qui sont dans ces secteurs-là et qui nous parlent de la façon dont ils vivent leur métier au quotidien et de ce que ça veut dire. Donc je crois que ce côté aussi de un peu de vie ma vie, ou en tout cas de démonstrateur là aussi de ces métiers est extrêmement important. L'idée, c'est aussi de permettre à des jeunes de pouvoir aller visiter des entreprises, d'être le plus possible au contact avec ces professionnels pour sortir peut-être de cette caricature dont vous parliez tout à l'heure du geek, et de pouvoir montrer toute la variété des métiers qu'on trouve. Parfois, on ne pense pas que les métiers du numérique, c'est aussi rédacteur de contenu web. Ça veut dire des métiers qui peuvent être très littéraires, qui peuvent avoir beaucoup de liens avec la capacité à s'exprimer, alors qu'on va peut-être plus facilement penser aux codeurs quand on évoque ces métiers-là.
On a des artistes, on a des designers d'applications. Dans la réalité virtuelle, on a des gens de très grands talents.
Qui sont sur l'expérience client, donc ils vont avoir plutôt cette approche sciences humaines, qui vont plutôt avoir cette approche quasiment sociologique en fait, de la démarche. Donc, il y a énormément de compétences qui sont mobilisées quand on parle de numérique. Pas que des compétences techniques, pas que des compétences dures, de sciences dures, mais des compétences aussi qui peuvent avoir trait aux sciences humaines, à la sociologie, à la linguistique, à plein de sujets extrêmement variés.
Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. On va passer à la séquence des questions de la salle. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas arrivés tout de suite au début de la session que Madame la Vice-Présidente, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, est néanmoins contrainte par son devoir de réserve. Donc, il se peut qu'il y ait des questions auxquelles elle ne puisse pas aujourd'hui vous répondre. Ne vous en formalisez pas. C'est simplement une contrainte de nos institutions. En revanche, on pourra les prendre peut-être dans le déroulé et dans l'outil de conversation, et peut-être que les services pourront apporter des compléments à vos interrogations. Donc, la parole est à la salle, la parole est libre. N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole directement en activant votre micro. Il m'en faut toujours un, moi. Donc, en général, je choisis le premier parce que c'est difficile d'amorcer. Donc moi, j'aurais bien aimé avoir du côté de nos futures intervenantes de lundi de Ruralytique, Elisabeth me voit venir avec mes gros sabots, Elisabeth Le Garec pour Vicomtech. J'aurais aimé approfondir un peu cette question de la mixité, parce que j'entends dire souvent que ben, voilà, ce monde virtuel, il est finalement très masculin, il est codé par des hommes, il est du coup extrêmement genré, et que ce n'est pas forcément souhaitable de mon point de vue. Mais cette question, voilà, le numérique et les femmes, moi j'ai tendance à penser que quand on n'aura plus d'association femmes numériques, on aura gagné. Voilà. Parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais comment ça se passe? Et par exemple, sans en dire trop sur ce que vous allez partager avec nous dans les semaines qui viennent, quel constat vous faites, vous, par rapport à cette relation des jeunes filles avec les métiers du numérique?
Oui, déjà, je remercie beaucoup Madame la Vice-Présidente pour cette intervention que j'ai trouvée très intéressante, et je partage évidemment toutes les choses qui ont été dites. Et pour nous, effectivement, je partage vraiment l'aspect très important, l'aspect manipulatoire. Donc, nous aussi, on va aller chercher, alors je ne vais pas trop en dire sur notre future intervention, mais à vraiment montrer aux filles que, enfin, en leur montrant que faire, en fait, c'est déjà voir qu'on est capable. Donc, pour moi, effectivement, cet aspect manipulatoire du campus, il est très important, même si, effectivement, pour nous aussi, l'aspect des rôles modèles est de permettre aux jeunes filles de découvrir la pluralité des métiers du numérique, qu'effectivement, le numérique, ce n'est pas seulement codé, mais qu'il y a vraiment une diversité de métiers et de profils qui est possible. Ça, pour nous, c'est très intéressant et très important. Donc, je trouve que c'est très enthousiasmant, ce campus numérique, et on partage vraiment ce constat.
Merci. Merci, Elisabeth. Franck Lavagne, je ne sais pas si Franck est avec nous. Franck, c'est la place des possibles à Romans-sur-Isère, un lieu dédié justement à la création, et ce que je pourrais le dire plus largement, à l'épanouissement des potentiels. Je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, mais c'est comme ça que je le sens. Comment, Franck, vous regardez ce campus région du numérique?
Bonsoir. D'abord, on n'est pas à Romans, on est à Saint-Laurent-en-Royans.
Oui, c'est juste à côté. OK, ça y est, bon, j'ai fait faux en première partie, alors tu peux y aller.
On est dans une petite commune de 1300 habitants. Bonsoir, Madame la Vice-Présidente. On s'était croisés à Ruralytique en 2018, parce que nous avons obtenu justement le Grand Prix Ruralytique, compte tenu de ce qu'on essaye de développer sur notre territoire. Et on avait inclus donc toute cette démarche, nous, dans, comme on s'adresse essentiellement au public le plus éloigné quand même de leur situation actuelle dans le contexte social, puisque nous sommes aussi une maison d'enfants à caractère social, nous sommes aussi habités par la protection judiciaire, etc. Et que nous essayons sur ce territoire, on a signé une convention avec la CAF pour créer un espace de vie sociale numérique sur l'ensemble donc du Royan-Vercors. Et nous avions donc une formation de citoyens européens éco-responsables que nous avons mise en place grâce au financement de la région. Mais malheureusement, donc, nous n'avons pas été retenus cette année. Nous le regrettons beaucoup. Voilà. Mais donc, parce que ce qui nous a. Alors, par rapport au campus numérique, j'en avais beaucoup entendu parler, mais on n'a pas cherché à, c'est vrai, à être labellisé. Je ne sais pas si on peut l'être d'ailleurs, par rapport à la dynamique de ce qu'on met en place, avec donc toute cette création de cet espace de vie sociale numérique dans une ancienne usine désaffectée, donc sur Saint-Laurent-en-Royans. On avait ce matin même une rencontre virtuelle avec la préfecture et avec la communauté de communes pour mettre en place et voir comment on va pouvoir intégrer des conseillers numériques pour développer sur ce territoire un peu cet ensemble-là. Voilà, Sébastien.
Merci, merci Franck.
Peut-être Sébastien pour répondre sur le côté labellisation. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt est ouvert en permanence. Donc, vous pouvez soumettre les formations qui pourraient être éventuellement labellisées via cet appel à manifestation d'intérêt.
D'accord. Merci.
Il faut visiter la place des possibles. C'est C'est un très, très beau projet. J'en fais la publicité parce que j'ai eu la chance d'y aller. Michel Chariot, également, en Seine-et-Marne, nous dit « Bonjour, est-ce que le dernier volet présenté, c'est-à-dire celui qui présente l'ensemble des métiers du numérique et qui peut donc permettre aux jeunes de découvrir toute la palette, est ouverte à tous ?» Sous-entendu, est-ce que si on vient d'Île-de-France, on a le droit d'entrer ?
Alors, on n'a pas vocation à être exhaustif, d'une part, parce que les métiers évoluent très, très rapidement, puis d'autre part, parce que ce serait tout le temps en permanence de refaire les choses. Mais par contre, en allant sur le site du campus, je vous invite vraiment à aller visiter le site du campus parce qu'il est très, très dense. Il y a beaucoup d'informations dessus. Vous allez trouver des fiches métiers, vous allez trouver des vidéos, de témoignages. Donc, on est sympa, on a mis ça à disposition de tout le monde.
C'est cadeau.
C'est cadeau.
Qui souhaite poser sa question ou témoigner, notamment par rapport à la, peut-être la détection des jeunes de votre territoire, ce qui est quand même juste un peu notre sujet cette année, qui pourrait avoir envie de s'engager et comment utiliser. Je pense peut-être à Ali Aksen du campus connecté Dromardèche. Je ne sais pas si Ali est avec nous. Oui, il est avec nous. Super. Bonsoir. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, il y ait une délégation ou en tout cas une mise en contact assez évidente entre des jeunes qui auraient cette appétence ou qui pourraient l'avoir? Bref, comment on parle des métiers du numérique aux jeunes d'un territoire?
Effectivement, cette perspective est intéressante et je pense pourrait intéresser plus d'un jeune de nos territoires, du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut savoir que là, très, très, très dernièrement, il me semble qu'il y a 5 ou 6 campus connectés en plus qui viennent d'être labellisés. Donc, on passe à 12 campus connectés au niveau du territoire Auvergne-Rhône-Alpes qui seront actifs dès septembre 2019. 2021, pardon. Et donc, ça constitue environ, je dirais, environ 200-250 étudiants qui poursuivent des études à distance et parmi lesquels il y aurait forcément des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui seraient intéressés par tous les métiers qui touchent au numérique. Après, il faut savoir que nous ne sommes pas dans les campus connectés en tant que tuteur ou coach, nous ne sommes pas des professionnels de l'orientation. Néanmoins, on peut effectivement se rapprocher du campus du numérique de la région pour essayer de peut-être favoriser des passerelles pour des étudiants qui auraient fait, par exemple, un BTS au sein des campus connectés ou une licence et qui souhaiteraient par la suite s'engager dans des études de développeurs ou des choses comme ça. Effectivement, des passerelles sont envisageables. On peut imaginer, par exemple, aller découvrir avec un groupe d'étudiants le campus région et favoriser ainsi une meilleure connaissance de nos jeunes, de nos territoires, dans toute cette palette de métiers qui est offerte. Voilà comment je vois les choses pour ma part, Sébastien.
Merci, merci Ali. Effectivement, il va falloir faire payer les entrées parce que ça va se bousculer au portillon, en l'occurrence. Et c'est tant mieux. Ali parlait de la question de l'orientation. Madame la vice-présidente, est-ce qu'il y a des actions destinées aux acteurs de l'éducation nationale et de l'orientation Forcément un peu d'ironie dans ma question, mais ce n'est pas toujours facile d'être conseiller d'orientation dans un lycée ou dans un collège en termes d'information et de mise à jour de l'info. Comment, la région étant également pilote dans le domaine des lycées, voilà, je me dis que voilà, on en est où de ce chantier-là? Est-ce que c'est un chantier qui est ouvert?
Pilote sur les lycées, mais pilote sur l'orientation aussi. D'ailleurs, sur le site du campus, on renvoie vers celui de l'agence de l'orientation, puisque les liens sont évidemment extrêmement forts. Non, aucune ironie sur la question de l'éducation nationale. Au contraire, nous avons des liens avec le rectorat. pour travailler cette question-là. On les a reçus très récemment sur le campus pour voir dans quelle mesure ça pourrait être un lieu de formation des enseignants à la question de l'identité numérique, des fake news, sur plein de sujets auxquels ils sont confrontés au quotidien, pour leur donner aussi des réponses, mais aussi pour les amener à être en contact avec cette diversité de public dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est extrêmement riche pour des enseignants de pouvoir rencontrer des industriels, de pouvoir faire découvrir à leurs étudiants ces équipements, de pouvoir rencontrer des pôles de compétitivité, de pouvoir discuter des futurs métiers. Donc non, c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement important, qui pour moi est central. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les prescripteurs en matière d'orientation sont pour moi une cible prioritaire en termes de communication, puisqu'ils ont un vrai rôle à jouer à la fois pour déconstruire ces représentations autour du numérique, pour encourager les jeunes et puis pour les accompagner de manière extrêmement concrète à découvrir ces métiers. Donc non, on a commencé à nouer des liens avec le référent académique au numérique, avec la personne en charge de la formation des enseignants. Au contraire, c'est un des objectifs du campus de pouvoir être ce facilitateur.
Parce que c'est vrai que, c'est vrai que pour le coup, ce sont des métiers qui, vous l'avez dit, sont nouveaux, sont en perpétuelle évolution. C'est difficile de stabiliser des profils types et aujourd'hui de savoir quels sont à la fois les savoir-être et les savoir-faire. Donc pour quelqu'un qui fait de l'orientation au quotidien, qui rencontre des jeunes, comment parler de ces métiers sans les connaître un peu, parce qu'on a de l'historique sur tous les autres, mais sur ceux-là, on n'en a jamais. Alors, comment former des prescripteurs ou en tout cas leur faire mettre la main dedans, eux aussi peut-être les faire manipuler, c'est l'idée de ça. Au-delà des enseignants, c'est aussi qui sont des prescripteurs clés, mais tous les acteurs de l'orientation.
Exactement, exactement. Tous les acteurs de l'orientation, tous ceux qui sont en contact de jeunes et qui peuvent avoir une influence à un moment donné sur leur orientation, c'est effectivement une cible prioritaire pour nous. Parce que si un jeune est convaincu, mais qu'autour de lui, l'environnement ne l'est pas ou le pousse à renoncer, quelque part, on ne fait que la moitié du chemin. Donc, je pense que c'est vraiment une approche systémique et globale qu'il faut avoir en la matière pour justement que tout le monde puisse aller dans le même sens. Donc, oui, ça a vraiment vocation à accueillir du grand public, à pouvoir accueillir des délégations de jeunes et à pouvoir être un lieu ressource, un lieu de formation pour les enseignants, à la fois sur des sujets techniques, pointus, comme sur, par exemple, on a sur le campus des équipements qui permettent de faire des rapides MOOC, donc pouvoir très rapidement se filmer avec le fond qui va bien, avec un prompteur, et de sortir de la salle avec directement sa vidéo qui est prête à être diffusée. Ça, c'est un outil qui est mis à disposition, qui peut être utilisé par un certain nombre d'acteurs, que ce soit des entreprises adhérentes, par exemple du cluster Digital League ou du pôle de compétitivité, mais aussi, pourquoi pas, à destination d'enseignants qui voudraient apprendre à s'en servir pour diffuser différemment des contenus pédagogiques.
Alors Ali complète son propos et nous dit, pour ce qui est de l'orientation, les CRIJ, les PIJ peuvent aussi être des acteurs intéressants. Je ne sais pas si dans les différents PIJ ou dans les CRIJ, là aussi on a une vision un peu à 360 de ces métiers. Je ne sais pas ce que pourrait m'en dire Ali par exemple.
J'ai l'occasion de travailler avec les PIJ ici sur le territoire ardéchois. Je sais qu'ils sont très sensibles à la question du numérique, notamment tout ce qui touche à la prévention, notamment, mais aussi ils sont sensibles à l'orientation, aux questions d'orientation, aux questions de connaissances. Tout à l'heure, vous parliez de choix éclairés. Et c'est qu'effectivement, ils travaillent beaucoup là-dessus sur comment faire un choix éclairé et donc essayer de trouver des informations, informer les parents, informer les jeunes, les moins jeunes, et essayer de trouver des informations utiles qui permettent de s'orienter en connaissance de cause, je dirais. Après, malheureusement, je ne travaille pas au CRIJ ni au PIJ, dans un PIJ, donc je ne serais pas en mesure de vous dire à quel niveau d'information ils sont. Voilà.
Je pense que de toute façon, on est tous assez lourdement déficitaires, hein, puisque les métiers du numérique ne sont pas que les métiers des réseaux, ce ne sont pas que les métiers de l'informatique, ce ne sont pas que les métiers du web. C'est une galaxie qu'on est en train de construire et d'appréhender. Donc là-dessus, je pense qu'on a vraiment besoin d'aller voir, effectivement, et de toucher. Qui je n'ai pas entendu, qui ce n'est pas exprimé, Sophie Marchand, êtes-vous avec nous, Sophie?
Alors bonjour, je suis avec vous, je suis désolée, je n'ai pas la caméra, je suis avec vous plutôt en auditrice puisque je viens de rejoindre Orange pour m'occuper de l'innovation territoriale.
Oui.
Et donc voilà, dans la région depuis 2 semaines, et c'est une bonne occasion pour moi de faire connaissance avec tous les acteurs puisque nous sommes partenaires du campus numérique avec l'École des Mines.
Tout à fait, oui. Sur quel sujet, alors peut-être pas Sophie parce qu'elle vient d'arriver, mais Madame la vice-présidente, Orange est partenaire sur quel sujet du campus?
Alors sur un des consortiums qui est sur donc l'usine de recherche et d'innovation, puisque Orange a installé pour la première fois en dehors de ses locaux un laboratoire sur la 5G industrielle, donc sur la 5G indoor, qui permet justement de pouvoir tester des cas d'usage de la 5G avec les équipements industriels comme bac à sable. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment avec des projets sur la télémédecine, sur des projets qui nécessitent d'avoir une latence très faible et donc auxquels la 5G peut apporter des solutions. Sachant qu'aujourd'hui, les cas d'usage sont en construction, puisque c'est une technologie qui est extrêmement récente et que l'objectif est justement de pouvoir co-construire avec les consortiums et avec les entreprises des cas d'usage et des solutions qui seraient apportées sur le campus.
Merci. Voilà pour vous, Sophie, vous en savez déjà plus.
Merci.
On parle partout de l'articulation entre transition numérique et écologique. J'aurais aimé avoir peut-être un input d'Alain Ril Enedis. Est-ce que, Madame la vice-présidente, il y a un consortium sur sobriété énergétique et numérique qui se profilerait, ou est-ce qu'on pourrait en parler à Enedis?
Oui, alors on a, donc dans le cadre de cette usine, on a souhaité avoir tout un volet justement sur numérique et environnement. Donc là, on vient d'attribuer quasiment 1,2 million d'euros sur cette question-là. Donc c'était le complément de l'usine, donc ce volet numérique, pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler cette question autour de la frugalité, autour du monitoring d'un certain nombre d'équipements, comment est-ce qu'on pouvait travailler à travers la maintenance prédictive, à travers des capteurs, à travers un certain nombre de technologies, cette question autour effectivement de l'environnement, de l'impact environnemental du numérique, puisque le numérique est à la fois le problème et la solution quelque part. C'est extrêmement consommateur de ressources et en même temps, ce sont des technologies, c'est une approche qui peut permettre d'apporter des solutions. Donc l'idée, c'était que ce campus, le campus numérique, puisse aussi être un lieu où on pense, de la même manière qu'on pense l'innovation pédagogique, puisqu'on a un appel à manifestation d'intérêt, je complète ma réponse de tout à l'heure, on a un appel à manifestation d'intérêt sur la question de l'innovation pédagogique et comment est-ce que des acteurs de la EdTech peuvent contribuer à penser cette question, à la fois pour les organismes de formation en interne, mais aussi dans la façon dont ils délivrent la formation. On a voulu, au-delà de cette question donc de l'innovation pédagogique, travailler aussi de l'innovation environnementale à travers donc ce complément de budget sur cette question. Donc oui, Enedis, évidemment, peut contribuer à la réflexion.
Bien, bonjour. Oui, je suis là, Sébastien. Et bien, bonjour à tous. Et bonjour à Madame la vice-présidente. Alors, merci de me laisser un tremplin pour effectivement compléter l'implication d'Enedis dans le numérique. Aujourd'hui, je dirais que tous les emplois Enedis quasiment sont numériques. Il n'y a plus un emploi qui peut se passer des outils numériques. Et donc, la formation et l'initiation ou le complément de formation aux outils numériques est absolument essentiel pour nous. Alors, effectivement, ça passe par des emplois, j'allais dire, high-tech, comme ceux que vous venez de citer, là, sur l'utilisation de capteurs, d'outils numériques pour prédire certains comportements, notamment du réseau, parce que nous, notre souci, c'est le comportement et le bon fonctionnement du réseau. Cela dit, on en a aussi besoin pour mieux faire connaître les enjeux, pour aider à la décision. Et je voudrais juste donner un exemple, puisque nous avons lancé, enfin, Enedis au niveau national a lancé une nouvelle édition du challenge DataVis. Alors, ça signifie simplement la visualisation des données. Voilà, et ça, c'est important aussi, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe, je dirais de manière concrète, eh bien, on arrive à orienter ses décisions et peut-être à éviter des erreurs d'orientation, des erreurs de choix. Et donc, ce challenge va concerner plusieurs IUT et écoles, j'allais dire, ou en tout cas, classes de formation supérieure. À Aurillac, c'est les premières années de l'IUT, nouvelle option informatique qui va être concernée. Et donc, ce qu'on va leur demander, c'est d'utiliser des jeux de données, donc des gros tableaux Excel, pour représenter, alors d'une part, ce qui s'est passé pendant le confinement, essayer de comprendre les évolutions de la consommation pendant le confinement. Donc, l'idée, ce n'est pas tant de donner son avis, mais de représenter cette évolution de manière graphique la plus compréhensible possible. Et donc, voilà. Et pareil pour l'évolution des installations de production, donc énergie renouvelable. Donc, l'idée, c'est d'avoir des graphiques qui soient suffisamment parlants, qu'on peut interroger, je dirais, et qu'on peut faire varier de manière dynamique pour essayer d'orienter un choix dans les décisions. Donc, c'est effectivement une partie, on ne demande pas aux gens de savoir coder, finalement, on leur demande simplement de savoir utiliser les outils classiques, type Excel, un peu Word, PowerPoint, etc., donc pour améliorer la prise de décision. Voilà, donc un enjeu fort, et là, c'est plus des communicants. Et juste pour faire un petit clin d'œil, les pilotes nationaux, je devrais dire. Je dis national exprès parce que c'est national ES. Ce sont deux filles, voilà, qui sont complètement impliquées dans ce challenge et qui nous donnent toutes les orientations et les outils nécessaires pour le mener. Donc à la fois, je dirais, ce sont des jeunes femmes et qui ont plein de dynamisme. Et donc voilà, Enedis essaye de promouvoir aussi cette mixité et cette complémentarité, je dirais, au niveau des emplois. En tout cas, je leur dis, tous les emplois deviennent numériques à Enedis.
Merci pour ce témoignage. Alain Ril, Juliette Jarry, une réaction ?
Oui, je trouve que c'est très juste, effectivement, de dire que le numérique peut être un formidable outil d'aide à la décision et que ça peut être par ce biais-là qu'il peut être contributeur justement dans la façon de penser les enjeux environnementaux. On peut prendre des décisions quand on est éclairé aussi par rapport à ce qui se passe et par rapport aux scénarios qui sont possibles. Donc c'est une vraie logique de pousser ces questions-là, effectivement.
Bien, il est 18h30. Nous touchons au terme de cette séquence numéro 15 de lundi de Ruralitique. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Merci à toutes et à tous. Vous retrouverez sur le site internet de Ruralitique l'intégralité de cette soirée en vidéo et en podcast à partir de jeudi matin. La semaine prochaine, nous accueillerons Nicolas Hureau de Ariège Très Haut Débit. J'ai failli dire Auvergne Très Haut Débit, pardon. Ariège Très Haut Débit, qui est une filiale d'Orange et qui va nous parler de ce qui est fait au centre de formation en partenariat avec la CCI Ariège-Pyrénées, qui a déjà formé 130 personnes au métier des réseaux. Donc, on va revenir là-dessus et dans cet Ariège rural et montagnard, après avoir passé un excellent moment en Auvergne-Rhône-Alpes, notre région chère à notre cœur en ce qui me concerne. Merci à toutes et à tous. Passez une très très bonne soirée. Bonjour à nos amis de la Place des Possibles. Gros bisous. Et puis, à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.
Bonne fin de journée. Au revoir.